France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Vous. Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Il existe un autre monde et il est dans celui-ci. L'autre monde évoqué par Paul Éluard, les présences, les fantômes. Et cette grande question ce matin, comment représenter l'invisible sur un écran de cinéma? Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Et parfois le fantôme ne sait même pas qu'il en est un, comme vous dans ce film. Bonjour Jonathan Cohen.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci. Dans L'âme idéale d'Alice Vial, Oscar, c'est vous, mort et à la fois bien visible, mais seulement pour elle, Elsa, une passeuse d'âme. C'est Magali Lépine Blondeau, médecin en soins palliatifs, L'âme idéale, sur nos écrans depuis mercredi. Vous pensez bien, Jonathan, que ce film et ce sujet nous passionnaient, les fantômes au cinéma, un genre en soi, depuis le magicien Méliès. Bonjour Benjamin Catagliotti.
Bonjour, très content de venir hanter France Inter.
Il y a du niveau, Jonathan. Un journaliste à ce film, et monteur et amateur du genre. Avec vous et à travers d'autres films, nous évoquerons la figure tragique, flippante, mais aussi émouvante du fantôme. Enfin, les sorties de ce mercredi, à côté de L'âme idéale, Avatar de feu et de cendre, où l'agent secret, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Ça va pas se refermer.
Ah merde.
Vous avez ce qu'il faut?
C'est-à-dire, parce que... Ah non, moi je sais pas faire ça. Non, je un bouton, je sais pas le coude, je vais pas commencer à...
Ah non, je vous parle. Je vous parle pas de recoude, je veux dire de quoi faire des strips.
J'ai des vêtements que je peux enlever, si c'est vraiment nécessaire, mais en vrai, c'est quoi déjà les strips?
Les strips, c'est les bandes adhésives.
Ah, les mini sparadrap là? Ouais. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Ça, je crois que j'ai. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça.
C'est ça. Ciseaux.
Là.
Je vais le faire, ça. Je suis médecin.
Ok.
Vous emballez pas. Parce que techniquement, j'ai jamais guéri personne.
Vous êtes un très mauvais médecin? C'est ça que vous êtes en train de me dire?
Parce que je travaille en soins palliatifs.
D'accord.
Les patients sont au stade terminal.
C'est pas bien, oui.
Et je vous ai angoissé en une phrase.
Non, pas du tout, non. Non, c'est juste que j'espère que j'aurai jamais affaire à vous. Enfin, à vous, dans votre service.
J'avais compris.
L'âme idéale d'Alice Vial, Elsa, Magali Lépine Blondeau, médecin en soins palliatifs, victime d'un accident en scooter et secourue par Oscar. C'est vous, Jonathan Cohen, elle ne le sait pas encore, et vous non plus, Oscar est mort dans cet accident, et plus tard, elle va le maintenir dans cette illusion, un pitch qui a fait tilt, même si vous avez mis du temps à accepter ce rôle.
Oui.
Cette histoire vous faisait peur, faut dire. Est-ce que vous croyez aux fantômes?
Je pense qu'il y a une partie de moi qui y croit, oui. J'ai pas de problème à croire en l'invisible, ces choses qui sont pas forcément rationnelles, qui dépassent notre vue, nos sens.
Vous avez déjà senti des présences?
Ouais. Et j'en ai senti, là.
Non.
Le Pompidou derrière moi, lâche-moi.
Non, mais c'est vrai, de grands-parents ou de...
Non, alors non. C'est marrant, parce que... j'aurais voulu, j'aurais adoré sentir la présence de mes grands-parents. Non, une fois j'étais à... Comment on appelle ça en Italie, à Florence.
Oui.
Il y a une espèce de, quand même, de musée vivant, musée permanent, tout est historique, tout est classé. Et il y a quand même des présences fortes. Et pendant la nuit, je sais pas, j'arrivais pas à dormir, c'était chargé de quelque chose.
Laurent Médicis dans la chambre.
Et elle était là, et elle m'a dit « Mec, t'es bâtard !» Elle voulait me buter, couper la tête et la foutre dans un placard. J'ai dit « Non, je me casse. » Non, mais en tout cas, quand il y a des atmosphères chargées, parfois on sent des vibrations, on se dit « Ah !» Bon, on n'est pas solo.
D'ailleurs, on les appelle les Jedi, hein, c'est certains soignants qui...
Qui sont dans les soins, soins palliatifs, qui ont effectivement cette sensibilité avec certains patients et qui peuvent les... Oui.
Et qui peut la veille même prédire la mort le lendemain.
Ouais.
Vous en avez rencontré des soignants? C'est plutôt votre partenaire qui en a rencontré.
Et alors, c'est plutôt la réalisatrice
qui
s'est inspirée, effectivement. Alors, c'est pas tant qu'elle en a rencontré, elle s'est inspirée d'écrits où, effectivement, il y a... Une femme qui travaillait au soin palliatif, qui avait un peu ce don qu'a Elsa, c'est-à-dire de voir les morts, qui avait cette sensibilité avec eux, qui justement les aidait à passer de l'autre côté. Et tout le monde dans le service n'avait aucun problème avec ça, parce qu'ils acceptaient, et c'est eux qui justement les appelaient les Jedi.
Les Jedi. Ouais. Jouer un mort, c'est quand même une occasion quasi unique dans une carrière.
Désolé, c'est génial. Et on n'en joue pas assez. Je ne sais pas si dans Avatar, il y a des morts. Je ne pense pas, non.
Mais c'est vrai. Un mort dans une comédie romantique, quand même.
Ouais, c'est beau, parce que... En fait, c'est ça qui est intéressant pour Alice et pour nous. C'est-à-dire que c'est un mort qui ne sait pas qu'il est mort. À vos souhaits. Oui. À vos souhaits. Vous êtes c'est là, on est en live et il ne faut pas l'oublier.
Merci de le faire remarquer.
Il faut le faire remarquer. Oui. Ce qui était beau, c'est qu'effectivement, on a un personnage qui est mort, mais qui va être terriblement vivant, et une autre qui est vivante et qui est terriblement morte à l'intérieur. Et comment les deux vont justement s'aider, s'aimer et se redonner vie l'un l'autre. Voilà, moi, je trouvais ça beau, cet échange-là. Et ce paradoxe-là.
Il y a un défi quand même à jouer sans pathos, sans cliché et au premier degré.
Oui, c'est-à-dire que le film le demande, il est très exigeant le film, justement pour pas tomber dans ces écueils-là, dans ces pièges-là, parce qu'on peut... Il est bordé de pièges et on peut tomber dans une comédie potache parce qu'il y a plein de situations qui le permettent.
Oui.
Lui qui sait pas qu'il est mort, elle qui lui cache.
Elle va pas trop loin avec ça d'ailleurs.
Non, justement. Elle domptait les chevaux là-dessus justement pour que le film n'aille pas dans un genre plus que dans un autre. Et puis pareil pour l'émotion, c'est-à-dire la contenir exactement ce qu'il faut pour qu'en fait on traverse ces émotions-là sans jamais s'y engouffrer totalement.
Vous avez travaillé physiquement pour vous dire « je suis là et je suis pas là ». Non, mais voyez dans votre regard...
Alors, c'est-à-dire que la chance que j'ai eue, c'est que c'est ce personnage, pendant très longtemps, ne sait pas qu'il est mort. Donc, il agit comme un vivant.
Oui.
Non, en fait, c'est la découverte de sa mort à lui-même qui est pas évidente à jouer parce qu'il y a... elle est sur le fil, et puis il faut donner l'émotion juste.
Mais c'est énorme comme découverte.
Pour le spectateur la ressente, mais en tout cas, il faut qu'elle soit assez juste. C'est un vertige qui se joue, c'est une espèce de hyper-pied, et c'est cette émotion-là qui était assez compliquée à jouer.
Comment vous avez fait ?
Je sais pas, j'ai essayé d'être dans l'instant, essayer de me dire que c'était vrai. Ouais. Et aussi, c'était vrai, ça marche. Hein. Et donc, du coup... j'ai fait de mon mieux. Surtout, j'ai essayé de faire de mon mieux.
Moi, j'aime beaucoup le film. Mais justement, je me disais, par rapport à cette sorte de vertige, il y a une scène que je trouve quand même très belle dans le film. Alors, c'est pas quand il réalise ou pas qu'il est mort. C'est un peu plus tard dans le film, quand le personnage féminin commence un peu à divaguer. Et je trouve qu'il y a un très beau plan, justement, de Jonathan qui est face à un miroir, qui veille un peu l'autre personnage. Et évidemment, il ne se voit pas dans le miroir, puisque, comme on le sait, les miroirs n'ont pas de reflet. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau, parce que c'est vraiment un moment du film où elle perd un peu pied. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, le mort se rend compte qu'il la hante. Et ça, je trouve ça assez joli, cette idée que presque, dans le mythe du mort, est-ce que les fantômes savent qu'ils nous hantent, vous voyez ? C'est-à-dire que c'est pas le cœur du film, mais pour le coup, il y a vraiment un vertige à ce moment-là. Que je trouve assez émouvant.
Ah, c'est beau.
Oui, et puis il y a une forme de don que fait cet homme à cette femme, en fait, en décidant de partir à un moment ou à un autre.
On dit tout, hein. Allez, ça part.
Pardon.
Ouais, bravo les spoils. tout le monde a vu le sixième
Il est mort,
sens, tous les films qui a été vu, Rebecca, son mari qui l'a buté. Je dis tout.
Il est mort, Jonathan.
Oui, imaginer qu'il reste. c'est pas grave.
Non, il y a deux films dans le film.
De toute façon, je vais balancer la fin de l'agent secret et la fin du chevreuil dans la forêt.
Et la fin d'Avatar.
Tout balancer. À la fin, il devient vert. Voilà.
Oui, c'est vraiment un truc de fantôme, quoi. Ils sont très susceptibles. Ils veulent surtout pas qu'on révèle leurs histoires. Quoi.
C'est ça.
Ouais. Mais oui.
Mais elle est belle, son analyse, non ? Elle est
magnifique, depuis le début. Alors que vous balancez tous les trucs.
Mais cet homme, il est drôle. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être drôle dans un film, de toute façon.
Mais pourquoi s'en empêcher ?
Dites-moi, trouvez-moi
vraiment l'argument qui légitime ça.
Mais c'est génial, parce que...
Mais en fait, on essaye d'être dans la vie. Dans la vie, les gens sont quand même relativement drôles, en même temps qu'ils sont profonds, en même temps qu'ils sont tristes. Et en vrai, pas toujours.
Pas tous drôles, oui.
Vous l'êtes, par exemple. Moi, je vous prends, je vous regarde, c'est vous que je regarde. C'est vous que je dépeins. Et en vrai, non. Mais en fait, oui, ça reste quand même quelqu'un qui a du charme. Ouais. Et le charme, excusez-moi, mais l'humour fait partie quand
bien
même.
Bien sûr, c'est hein, le
des piliers. Donc
mais,
oui.
Mais ce charme, moi, enfin, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai que j'aime bien dans le film, c'est que bon, c'est réalisé par une femme.
Oui.
Et on parle souvent parfois de male gaze et female gaze.
Mmh,
ouais. Et là, je trouve qu'il y a un vrai female gaze. Au sens où, bah, notamment quand vos deux personnages se rencontrent,
oui.
À un moment, je me disais, il y a des plans, pour le coup, très proches sur le visage, justement, de Jonathan, où on voit, je ne sais plus, sa bouche, des traits
oui.
comme ça.
Oui, oui, oui.
Et je me disais, c'est marrant, parce que finalement, ça, on le voit souvent sur des femmes,
ouais.
et oui. beaucoup moins chez des hommes.
Ouais.
Et là, c'est vraiment Jonathan qui, d'un coup, devient l'objet du désir.
Ouais.
Et ça, c'est très
c'est
joli.
C'est déjà assez rare pour que...
Vous vous soulignez,
vous avez bien raison. Mais, en plus de ça, je suis absolument d'accord avec vous, parce que c'est, je trouve ça, c'est vraiment un point de vue de femme sur comment elle regarde un homme et je trouve que c'est effectivement assez rare aussi ouais. Au cinéma pour qu'on,
encore, ouais.
qu'on le souligne.
Et sa rôle assez doux.
Oui.
C'est un, non mais c'est un homme doux, gentil, vulnérable.
Non, il est doux et puis elle, il est dans une période où il pense qu'il va lui arriver le meilleur parce qu'il ne sait pas encore... il ne sait pas encore qu'il est mort. Et oui, puis ce qui est beau, c'est que j'aime dans ce film, j'aime leur rencontre parce qu'elle elle évite toute séduction qu'on peut, comment dire, qui serait qui est un peu inhérente à ce genre de film, la comédie romantique, et je te plais, tu me plais, tout ça. Là, ils se plaisent, ils s'entendent bien, et puis d'un coup, il se passe quelque chose, mais ça jaillit plus que ça se tourne autour.
Ouais.
Il n'y a pas ces écueils-là, je trouve.
Et à un moment, il est un petit peu paumé, justement.
Aïe.
Je comprends pas ce qui m'arrive, là. Je comprends rien du tout. Je comprends pas. En fait, je suis mort. Mais je pense, je parle, je ressens encore
va,
des émotions.
Je suis là.
Je regarde même là. Ta main, en fait. Comment tu fais pour me toucher? T'es mort, toi aussi?
Non, moi, je vois les morts. Je te vois, toi. Ouais. T'es dans une sorte de réalité décalée. Moi, je peux la vivre avec toi.
Depuis quand tu sais que je suis mort?
Je sais pas, je l'ai pas vu tout de suite. Je te jure, sinon, je te l'aurais dit.
Mais on a couché ensemble, Elsa. Ça n'a aucun sens.
Je sais, mais à ce moment-là, je savais pas.
T'as couché avec quoi? T'as couché avec mon âme?
Avec toi. Moi, j'ai couché avec toi, Oscar.
Mais pourquoi je suis là alors encore? Je sais pas.
Parce que t'as pas accepté ta mort. Donc, tu ressens encore tout comme avant. T'es comme si t'étais un peu dans la matière, dans ton corps. Tu vois? Je peux t'aider, tu sais. Je peux t'aider à mourir, vraiment.
Mourir, vraiment?
C'est très drôle la réaction que vous avez eue, Jonathan, là, pendant l'extrait. Vous avez ri, on a ri. Parce que cette scène, elle pourrait être très drôle dans un truc ouais. comique que vous avez l'habitude de faire. Ouais. Et là, elle n'est pas drôle du tout.
Non, parce qu'elle est réaliste sur,
ouais.
Sur ce que c'est de se rendre compte qu'on est mort et pourtant on est vivant et on ne comprend pas. Et en fait, il est apeuré par cette chose qui défie les lois de la gravité, les lois du sens, et il ne comprend pas, et il est perdu, et il ne sait pas s'il est fou, s'il est mort, enfin, il ne sait pas ce qui est réel ou pas.
Mmh.
Et c'était véritablement comme ça qu'on l'avait travaillé, on l'a travaillé comme un... L'idée, c'était de se dire que j'étais un espèce d'animal apeuré comme ça, et qu'elle devait me calmer, me faire comprendre, en fait, que tout va bien, et qu'on va trouver une solution, mais c'était un peu ce qu'on se donnait, nous, comme... qu'Alice nous donnait comme direction d'acteur pour jouer cette scène.
Vous êtes fier de ce film?
Oui, à plein d'égards, oui.
Ouais, non, mais c'est vrai, vous êtes fier du film, du rôle.
Je suis fier du rôle, je suis fier
de ce que ça dit.
Je suis fier surtout des réactions des gens, parce que moi je suis fier de la facture du film et surtout d'avoir accompagné Alice dans son premier film et elle a réussi quand même à faire quelque chose qui est assez rare chez nous, justement, traiter un sujet comme ça, trouvez-moi d'autres films qui parlent de ça. C'est vrai que c'est des films qu'on n'a pas l'habitude de s'approprier et qui sont pas évidents à faire, et je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de talent. Voilà.
D'autant qu'on a un peu de mal avec la mort en France, dans notre culture, non? On n'aime pas trop l'approcher, la regarder.
Non, c'est vrai qu'on la met un peu sous le tapis.
Ouais.
Comparaison à d'autres cultures qui, eux, pour le coup, vivent avec.
Ouais.
Ou l'apprivoise. Alors après, occidentalement parlant, bon, c'est vrai que c'est l'Occident qui a plus un problème avec la mort que... Voilà, mais c'est comme ça.
Vous aimez bien, Benjamin Cataliotti, l'image émouvante du fantôme. C'est exactement le rôle de Jonathan Cohen dans L'Ami idéal.
Oui, bah, en fait, bon, alors c'est presque littéral, mais bon, évidemment, le fantôme, il y a tout de suite l'idée du deuil. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée, moi, que je trouve toujours très touchante, qui est cette idée des morts. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont vivants? Enfin, est-ce qu'ils ont conscience d'être morts ou pas? Que je trouve toujours forcément émouvante, parce que ça amène aussi à, est-ce qu'on accepte l'idée de la mort? Comme vous avez dit, il y a cette sorte de tabou sur l'idée de la mort. Même le film de fantôme, je veux dire, c'est pas un genre particulièrement noble. On est justement dans cette idée un peu du genre. Et donc, moi, j'aime toujours cette idée. C'est presque, vous savez, comme l'équivalent des vanités qu'on avait dans la peinture. Ouais. Vous savez, vous aviez cette tête de mort qui vous rappelait l'idée de la finitude. Ouais. Je pense que les films sur les fantômes, c'est un peu ça. C'est-à-dire, mais dans le divertissement, c'est un peu cette idée. Souvent, les fantômes, ils nous font peur, mais ils viennent aussi nous accompagner.
Ils permettent une coexistence entre vivant et mort. C'est ça qui est important, en fait.
Oui. Ouais. Bah, en fait, il y avait... on en parlera peut-être avec Shining, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup de Kubrick qui en parle comme ça assez bien. Alors que, par exemple, il fait un film comme Shining, qui est un film qui est très violent. On lui demande pourquoi, à son avis, les films de mort fascinent autant. Et il dit, bah, paradoxalement, ça a beau être des films effrayants, c'est des films qui nous promettent une idée de l'au-delà. Vous voyez ? Ça, je trouve ça assez beau. C'est-à-dire, est-ce qu'on croit aux morts ? Ou est-ce qu'on croit aux fantômes ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si je crois aux fantômes. Par contre, je crois au sentiment, disons, d'espoir et de continuité que promettent le cinéma.
Est-ce que le cinéma est l'art parfait pour les raconter ?
Eh ben, en tout cas, c'est un art qui permet de les incarner.
Ouais.
Et ça, c'est assez beau. Et vous posiez la question au début, justement, de comment on les représente.
Ouais.
Et si on parle, bah, par exemple, de l'aventure de Madame Muir.
On va y arriver. C'est une femme qui tombe amoureuse, en fait, d'abord d'un portrait d'un homme qui est mort, d'un ancien capitaine, qu'elle seule peut voir, et qui va, en fait, lui dicter le livre qu'il a envie d'écrire sur ses mémoires.
Exactement.
Mankiewicz, 1947, Jean Tierney, Rex Harrison.
Je suis désemparée et je me demande ce que l'avenir me réserve.
Pas confiance en moi?
Oh, mais si, Daniel, si, lorsque je vous parle. Mais quand vous n'êtes pas là, eh bien, c'est beaucoup demander que d'exiger de quelqu'un de se reposer pour tout son avenir sur une personne irréelle.
Mais je suis réel. Je suis ici parce que vous croyez que je suis ici. Et continuez à le croire. Et je serai toujours réel pour vous.
Oui, Daniel.
En fait, Jonathan Cohen, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais ça permet, ces histoires de fantômes, comme votre film L'Ami idéal, des histoires follement romantiques.
Oui, et puis c'est beau la dernière phrase qu'il vient de lui dire.
Oui.
Surréel, si vous décidez, enfin, si vous décidez que je sois. Ouais. Et c'est beau, parce que c'est aussi un rapport avec nos disparus. Ils existent tant qu'on y pense, et tant que... Voilà, je trouve ça très très beau aussi.
Et c'est un film assez féministe, parce que cet homme, ce fantôme, va permettre à cette femme d'écrire dans un siècle où les femmes n'écrivaient pas, ou très peu.
Oui, bah, vous disiez qu'elle est amoureuse de... Enfin, qu'elle tombe amoureuse de lui. Elle tombe aussi amoureuse de la liberté. C'est-à-dire que c'est aussi un film qui, là-dessus, est quand même d'une modernité assez folle. On est à la fin des années 40. Alors, il y a déjà eu des figures, disons, de femmes libérées. Mais c'est aussi l'histoire d'une veuve, au départ, qui décide de se libérer. Et qui, en fait, pendant tout au long du film, va être accompagnée par ce fantôme qui est plus bienveillant qu'il n'y paraît au départ.
Qui est son inspiration.
Qui est son inspiration, mais qui est son inspiration aussi à accepter une idée de liberté. Et là où je trouve que le film est vraiment moderne, c'est qu'il propose même presque une sorte d'idéal de... je sais pas, de solitude ou de célibat. C'est-à-dire que là, dans l'idée de est-ce qu'il vaut mieux être seul ou mal accompagné, il y a presque une sorte de chemin de traverse qui est bah, peut-être qu'il vaut mieux être seul avec ses fantômes. Vous voyez. Ça, c'est assez joli.
Elle est un fantôme invisible qui ne vit que dans les pensées d'une femme. Ça, c'est le grand talent de Hitchcock, même si c'est adapté de Daphné du Maurier, c'est Rebecca. C'est cette jeune femme qui arrive dans cette propriété dont le mari a été marié avec Rebecca, qui est morte bizarrement. Et c'est la gouvernante, Mrs. Danvers, qui va lui faire revivre cette Rebecca.
Pourrait-on croire qu'elle ne reviendra plus? Quelquefois, quand je passe dans le couloir, je crois entendre sonner son pas derrière moi. C'est un pas alerte et net. J'entends ce pas léger très souvent. Et non seulement dans cette chambre, dans toutes les chambres du château. Je l'entends maintenant encore. Vous croyez que les morts viennent surveiller les vivants?
Non, je ne le pense pas.
Quelquefois, pourtant, j'ai l'impression qu'elle hante les couloirs de Manderley et que son fantôme vous surveille tous les deux.
Benjamin Catalioti, l'immense talent de Hitchcock, quand même, c'est de faire revivre cette femme à travers des vêtements, à travers une serviette avec ses initiales. C'est fou.
Oui, bah là, c'est le film de fantôme invisible. Ouais. Et puis, pour continuer ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il l'a fait revivre aussi à travers le désir. ou la peur. Et ça, c'est quelque chose... Alors, pour le coup, on est presque dans le schéma inverse de Madame Muir, c'est-à-dire que là, bon, le fantôme n'est pas là pour lui faire du bien. On ne sait même pas vraiment s'il y a fantôme.
Oui.
Moi, ce que j'adore, c'est qu'on est vraiment dans le paradoxe. C'est-à-dire que, d'un côté, pour le personnage donc, de Joan Fontaine, qui est un peu écrasé par les convenances et qui a peur de ce fantôme, elle est terrorisée. Et puis, de l'autre côté, elle doit affronter cette gouvernante qui, elle, pour le coup, brûle littéralement de désir pour le fantôme. Et il y a cette idée de la projection, c'est-à-dire que pour les uns, le fantôme va être quelque chose d'effrayant, pour les autres, ça va être une forme de fantasme. Évidemment, Hitchcock joue avec ça, avec plaisir, avec jouissance. Et en plus, un peu comme chez Mankiewicz, le fantôme sert aussi un peu à bousculer les conventions sociales, puisqu'on a peut-être oublié, mais Joan Fontaine, dans le film, n'est pas du tout une noble. Et finalement, elle est presque plus écrasée par ses complexes d'infériorité que par le fantôme.
Ouais, il y a tellement de sous-textes. Voilà. Après, il y a deux films que vous accrochez tous les deux ensemble, c'est Le Sixième Sens et Les Autres. Vous avez vu Le Sixième Sens ?
Bien sûr, j'ai vu Le Sixième Sens. J'adore Le Sixième Sens.
Avec le twist le plus fou du cinéma.
Que vous allez raconter.
Non !
Allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Ah, j'ai pas dit que Rebecca, à la fin, et, en fait, c'est le mari qui a tué sa femme. Allez, voilà.
Et pourquoi alors vous rappelez, on se rappelle tous,
je me souviens l'avoir vu au cinéma, c'est un choc, en vrai, visuel aussi. La manière dont Jean Malan a distillé des indices, le rouge, au fur et à mesure, des images pour comprendre qu'il y a des morts ou pas. Et puis ce twist de fin qui est magistral. Moi, je me souviens d'un choc de cinéma à l'âge où je l'ai vu. J'étais tout jeune, je devais avoir quoi, 16-17 ans.
Le petit garçon, il joue le rôle d'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts, Benjamin.
Oui, tout à fait. Et justement, on parlait de la croyance, du vertige, de croire aux morts. Je pense qu'on est aussi toujours là-dedans. Moi, je me souviens, quand j'avais vu le film, je l'avais vu avec un oncle, et il m'avait dit quelque chose qui m'a souvent marqué. Il m'avait dit si jamais c'était une histoire d'enfant fou, je serais sorti de la salle. Oui. Et en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'était que, parce qu'il y a un peu ce doute qui dure pendant peut-être une demi-heure dans le film, que peut-être qu'en fait, c'est juste un enfant qui croit voir des morts et qui est malade. Et en fait, évidemment, le film assume vite l'idée que non, les morts sont là. Et je pense que ça dit quelque chose d'assez intéressant sur le plaisir, encore une fois, qu'on a au cinéma. C'est qu'au cinéma, on n'a pas envie d'être dans l'histoire de quelqu'un qui affabule. On a envie de les voir, les morts, on a envie d'y croire. Et je pense qu'on est encore dans la phrase un peu de Kubrick, c'est que paradoxalement, même si c'est effrayant, Sixième Sens, c'est encore une fois l'idée de croire. Il y a presque un happy end, vous voyez, dans ce twist, qui est que, ce petit garçon avait raison.
Et puis en même temps, c'est des films qui retardent l'échéance de la disparition.
Oui, et qui nous ramène encore à l'idée de pouvoir avancer avec les morts. Alors évidemment, le personnage de Bruce Willis, lui, est pas tout à fait conscient de ce qui lui arrive, mais nous, quand on le regarde, on est déjà dans le deuil. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut dire ça aussi. Shyamalan, pour le coup, contrairement à, par exemple, Hitchcock, c'est vraiment un cinéaste de la foi et de la croyance. Il y a cette idée pour lui de questionner jusqu'à quel point une foi peut nous amener à croire au reste du monde, à ne pas être complètement désespéré.
I see dead people walking around like regular people.
I don't see anything. Are you sure they're there?
Sometimes you feel it inside, like you're falling down real fast. You ever feel the prickly things on the back of your neck?
Yes.
That's them. They get mad. It gets cold.
How often do you see them?
All the time.
Et puis, il y a effectivement les autres d'Amenabar où ce sont... Ah, je vais révéler, pardon, Jonathan, mais... C'est une famille de... C'est une famille de vivants dans une maison, mais on s'aperçoit à la fin que...
Bah, qui sont peut-être pas si vivants que ça.
Voilà. Et c'est un très beau film aussi. Bon, quand je l'ai vu, j'ai l'impression de voir un classique.
Oui, puisqu'en plus, ça joue sur ce classique. Alors, pour le coup, en l'ayant revu il n'y a pas très longtemps, ça joue même... Enfin, on a presque l'impression d'être dans Rebecca, justement, à Hitchcock, hein, qui est cette idée un peu de la maison hantée, qui est presque une sorte de schéma inverse du film de conte de fées, vous savez. Cette idée qu'on aurait le conte de fées où il se passerait toutes sortes de belles choses. Et puis... Un film comme Les Autres ou comme Rebecca, c'est un peu ce qui se passe quand après que le prince ait épousé l'être aimé, vous voyez, et qu'on se rend compte que finalement les secrets sont pas si agréables, que les maisons sont peut-être un peu plus hantées qu'enchantées. Non, moi j'aime beaucoup aussi Les Autres. Je pense que si c'est parce que je les ai vus tous les deux enfants. C'est des films qui renvoient justement à cette terreur enfantine. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire sur les films de fantômes. Le fantôme, c'est peut-être la première chose à laquelle on pense.
D'ailleurs, Jonathan, il est un peu enfantin, votre personnage aussi, non ?
Oui. Oui, oui, il est enfantin. Il est enfantin dans le sens où, en fait, déjà, il vit. Il a un peu cette vie de solitaire, de solitude. Il est seul dans sa chambre à jouer avec ses, à faire sa musique dans son coin, qui ressemble beaucoup quand même à une vie d'ado, de gars qui crée, à la mienne, parce que moi, j'étais fils unique. Je suis toujours d'ailleurs. Hein, ça n'a pas changé. mais c'est vrai que je m'amusais seul dans ma chambre à m'imaginer des trucs, à concocter des Ouais. Donc en fait, c'est vous avez raison de dire qu'il est enfantin.
Ouais.
Il y a un côté pas très adulte à pas assumer le monde extérieur et à le retarder comme ça. Comme
on
il
a
le
même
fait.
L'impression que c'est la première femme qui rencontre vraiment.
C'est vrai. Mais ouais. On a l'impression que tout est nouveau.
Mais
pour
tout
lui.
Est nouveau pour lui.
Alors que non, mais en tout cas, lui, il s'est enfermé dans sa petite chambre d'ado.
On va vous faire écouter une musique maintenant, pardon. Et vous allez me dire ce que c'est, Jonathan. J'espère que vous allez reconnaître, mon Dieu.
Breadcrumb. Here's Johnny. C'est effrayant. Breadcrumb. Shining.
Come and play with us.
Shining,
ouais.
Un écrivain, Jack Torrance, engagé dans un hôtel fermé pendant l'hiver avec sa femme et son fils, il espère retrouver l'inspiration et c'est seulement la dernière séquence, Benjamin Cataliotti, qu'on se rend compte que c'est un film de fantôme.
Oui,
ou pas.
Cela dit, le film est quand même hanté. Et on a notamment, on les a entendus, ces fameuses petites jumelles qui croisent Danny, qui, je pense, désormais hantent à peu près tous les gens qui ont vu le film. Voilà. Bon, j'ai quand même une pensée pour les gens qui sont en train d'écouter l'émission sur la route des vacances et qui ont entendu les red drums et la musique du film.
Ouais.
Voilà, je pense que ça crée une belle ambiance.
Belle ambiance dans la voiture.
Ouais. Allez.
Non, mais oui, film assez génial. Alors, pour le coup, on parlait d'Hitchcock et du côté fantôme invisible. Moi, ce que j'aime beaucoup, qui est assez flippant, mais en effet aussi assez jouissif dans le film, c'est presque le côté littéral. C'est-à-dire qu'à un moment, quand Danny imagine ou croit imaginer ou voit des fantômes, ça passe très vite, mais on les voit. Y a cette idée de Jack Nicholson. Vous savez qu'on sait que Kubrick faisait faire des tas de prises à Nicholson, une quarantaine, cinquantaine de prises. Alors c'est avéré, hein, c'est pas, parfois il y a des légendes de cinéma. Et il y a une anecdote qui est assez marrante là-dessus, c'est que Nicholson, lui, pensait que quand il faisait ses 50 prises, Kubrick en fait choisissait un peu parmi les prises pour voir lesquelles étaient meilleures. Et s'est rendu compte au montage que pas du tout, en fait Kubrick prenait vraiment les dernières prises, c'est-à-dire celles où en fait Nicholson est à bout de nerfs, au bout, parce qu'il voulait ce jeu qu'on a trouvé parfois grotesque, mais de mort-vivant en fait. Hein, vraiment.
Vous avez l'image en tête plein de ce film, Jonathan.
Oui, j'en ai pas qu'une. Hein. J'en ai mille. Il arrive à créer des chocs visuels. Kubrick quand même, mais dans tous ces films d'ailleurs, il y a des chocs visuels. Là, bon, il y a les jumelles, il y a cette espèce de vague de sang, il y a la vieille dans la salle de bain, moi c'est un cauchemar. et puis après, la course-poursuite dans le labyrinthe.
Ah oui.
Tout est effrayant. Effectivement, c'est vrai que la partie fantôme à la fin, enfin, je veux dire, c'est déroutant. La photo de fin où il fait
la photo.
Oui. Maintenant, il fait partie. En tout cas, t'as l'impression qu'il fait partie maintenant de l'histoire de la maison.
Oui. Ouais.
Après ce film, mais on ne sait pas s'il en faisait partie avant. En fait, je ne sais pas en fait dans quoi il s'inscrit, à quelle époque il s'inscrit de la maison.
En tout cas, ça devient. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça devient presque un conte initiatique. C'est-à-dire que finalement, le film, c'est aussi la façon qu'a Nicholson, enfin Jack Torrance, d'apprivoiser ce monde des morts. C'est-à-dire que bien sûr, on est du point de vue, on a peur, donc on est du point de vue de l'enfant et de son épouse, mais à la fin, ça reste aussi un peu le retour d'un fantôme et l'idée d'un être qui retourne, comme tous les films de fantômes, vers la mort petit à petit.
Tanguy Vielle, l'écrivain, il m'avait dit que la maison, c'était un peu le cerveau de Jack Torrance.
Oui,
c'est intéressant comme interprétation.
Oui, il y a de ça. Et puis c'est le cerveau un peu de Kubrick. C'est-à-dire que cette idée d'un film qui est d'une maîtrise folle.
Et parfois, on se dit qu'il ne devrait même pas y aller dedans.
Oui, il faudrait pas trop.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le film parce que bon, Kubrick, qui à ce moment-là était sans doute le plus grand cinéaste vivant, le fait qu'à un moment, il entre comme ça dans le cinéma de genre. C'est aussi une sorte d'arène parfaite pour lui. C'est-à-dire que c'est un peu comme si Beethoven, d'un coup, se mettait à faire, je ne sais pas, de la pop musique, vous voyez. C'est-à-dire qu'il maîtrise tellement son art qu'il a... En plus, Kubrick n'avait pas peur de la grossièreté. Donc, à un moment, il va faire des zooms, il va faire des chants contre chants des toutes sortes d'images qui vont nous choquer et qui nous choquent encore.
Et là, on va écouter un extrait, une des ambiances d'un film qui vous a traumatisé, Benjamin. C'est Ring, le film japonais, parce qu'il y a eu un film américain aussi.
Oui, il y a eu un remake, The Ring d'ailleurs, qui est un film assez, enfin un remake assez réussi. Hein,
Le fantôme, c'est une cassette.
Le fantôme, c'est une cassette. Le fantôme, enfin plutôt le fantôme vit dans une cassette maudite. Voilà, ce fameux film dont on a pu entendre parler, qui est presque comme une légende urbaine. Hein, vous savez, l'idée de d'une cassette vidéo qui, quand on la regarde, annonce ensuite votre mort au bout de 7 jours. Alors c'est vrai que moi j'ai eu un rapport un peu particulier avec le film. Je l'ai vu du coup quasiment à sa sortie. Je devais avoir 13 ou 14 ans. C'est un film de la fin des années 90. Et c'est vrai que c'est un film qui m'a empêché de regarder un écran de télévision normalement pendant des années.
Mais
parce
non
que, parce qu'il y a cette idée justement, vous savez. Alors aujourd'hui,
Dieu merci, on est passé au DVD après, voilà. Mais donc, du coup, ça ne marchait plus. Il n'y avait plus de VHS. Voilà. On était sauvés. La moyenne mal enfermée dans un DVD. Ouais. Ah, c'est trop moderne.
Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les écrans numériques, mais je pense que vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait, vous savez, il y avait cette neige qu'il y avait dans les écrans
cathodiques. Oui, bah oui.
Ouais. Et c'est aussi cette idée qui, à la fois...
On s'en souvient, mais bon, on s'en souvient.
Non, mais tout le monde s'en souvient pas. Mais cela dit, en gros, moi, j'avais une sorte de petit écran de télévision dans ma chambre, et en fait, le fantôme, en fait, apparaît dans la neige de ces écrans-là, ce qui est à la fois terrifiant et très poétique, hein, de faire apparaître ce fantôme dans cette sorte de neige qui nous a tous fascinés.
Ouais.
Et moi, je me souviens que, enfin, je pense que pendant toute mon adolescence, à chaque fois que j'allumais la télé, je détournais le regard de peur de voir apparaître Samsara, vous voyez, le fantôme de Ring, quoi.
Vous l'avez vu, Jonathan, ce film?
Oui. J'ai vu la version américaine, j'ai pas vu la version originale. D'ailleurs, je voulais vous traduire ce qu'elle disait. j'ai pas eu le temps. Alors qu'on n'a pas le temps. Mais je devais le coup de fil, enfin bref.
Mais c'est aussi parce que les fantômes, je pense, enfin moi, je sais que ce qui continuait de me terrifier, si vous voulez, c'est que c'est aussi c'est le fantôme du quotidien. Vous voyez, c'est-à-dire que même quand on regarde, je sais pas, par exemple, un film comme SOS Fantôme, qui est pas du tout un film terrifiant, on a quand même cette scène à un moment où Sigourney Weaver, en gros, est hanté dans sa cuisine, si on se souvient, et on a les œufs comme ça de Sigourney Weaver qui se mettent à exploser parce que la cuisine est hantée. Et c'est à la fois drôle et bizarrement, ça reste un peu terrifiant. Et c'est l'idée que le fantôme, c'est aussi un être qui se balade dans votre maison.
Ouais, et qui agit, en fait.
Et qui agit.
Et on a une minute pour parler de Oncle Bunmi.
C'est suffisant.
Pas du tout.
Non, mais il est formidable, ce film.
Les hommes qui se rappellent de
L'homme qui se rappelle de ses vies antérieures.
Palme d'or, la plus folle des palmes d'or.
Oui, et puis alors, c'est vrai qu'on a parlé de plein de films qui choquent. Enfin, je crois qu'il faut toujours rappeler à quel point les films de Verazet Akul sont agréables à regarder, font du bien. Pour qui a pu connaître un deuil, je pense qu'on a rarement fait film aussi beau et aussi apaisant. Alors, c'est pas que du soin, mais cela dit, c'est pas péjoratif de dire que c'est un grand cinéaste du soin, Verazet Akul. Et en l'occurrence, là, on est vraiment dans des fantômes qui vivent parmi nous avec une évidence. Le plan d'apparition du fantôme et des fantômes, je veux dire, ils sont là, ils se posent à côté de nous, et puis on est heureux de les revoir.
Quoi. Tout va bien.
Ouais.
Jonathan Cohen, à l'affiche de ce très beau film, L'âme idéale d'Alice Vial, qui est sorti mercredi, à côté d'autres films, de petits films, dont on va parler.
Malheureusement, il n'y a pas de fantôme. Hein, voilà. Donc, aucun intérêt.
Aucun intérêt. Voilà. Et Benjamin Cataliotti, vous restez avec nous, bien sûr. On se retrouve après Gorillaz.
Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing
beyond what you believe. Father, anoint by fear of death. Do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me.
On aura tout vu, Christine Masson et Laurent Delmas.
Et oui. On va parler de ce petit film, Avatar de feu et des cendres, de James Cameron, troisième volet, en attendant les 4 et 5, et peut-être même 6 et 7 au secours.
Ça va, non?
Ouais, ça ira comme ça. Après la mort de Netayam, la famille de Jake et Neytiri est aux prises avec le deuil et rencontre une nouvelle tribu, Navi, agressive, le peuple des cendres. Ça tourne un peu en rond quand même, Laurent, autour des mêmes enjeux narratifs, et pourtant, ils sont 5 scénaristes sur le coup. La haine, le deuil, la renaissance, en boucle, certes, mais une maestria visuelle, ça, il faut lui accorder, avec dragons, monstres marins et une 3D de compétition. Un nouveau personnage dans cette saga, Varang, c'est Una Chaplin, la petite fille de Charlie. C'est dommage que cette méchante, on ne la connaisse pas beaucoup, et on ne connaisse pas beaucoup ses origines. Il y a quand même un très bon point dans cette histoire. S'il marche comme il a démarré, il va réinsuffler beaucoup d'argent dans notre cinéma, et ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, alors, effectivement, que dire, beaucoup de bien, on aurait du mal, beaucoup de mal, ce serait oublier le bien qu'on attend, effectivement, tous d'Avatar en cette fin d'année, effectivement, qu'il remplisse les salles de cinéma françaises, pas assez fréquentées en ce moment, il faut le rappeler, et parce que, comme certains semblent l'oublier, du côté de l'Assemblée nationale, chaque ticket vendu pour Avatar va vers le financement d'autres films,
ouais,
ses auteurs notamment. C'est un système vertueux dont on se félicite. Bref, on peut être parfaitement indifférent à ce nouvel opus, c'est mon cas, mais lui souhaiter un immense succès dans ces salles de cinéma si précieuses dont on va bientôt fêter les 130 ans.
L'agent secret de Kleber Mendoza-Filho, ça c'est le chef-d'œuvre de cette fin d'année avec Wagner Moura qu'on avait reçu en direct. C'est un grand film sur la résistance à cette folle dictature, jamais soulignée mais toujours ressentie à chaque point de plan, son emprise sourde. C'est fou quand même, cette foi dans le cinéma que possède le réalisateur qui irrigue tout le film jusqu'à cette fin. Bouleversant, donc, en deux mots, c'est l'histoire au Brésil pendant la dictature de Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années qui revient pour retrouver son fils et qui a un passé assez trouble, Laurent.
Oui, la première scène annonce le film. C'est une station-service déserte dans un lieu désertique au milieu de nulle part. Une coccinelle, la voiture, jaune, c'est une des couleurs du film, très très présente, avec des nuances de jaune qui vont du jaune citron au jaune pâle. Et puis un vrai faux suspense qui s'instaure. Il y a un cadavre sous un carton, il y a des flics tendance Cohen, mais c'est une fausse piste. Et tout le film est bâti comme ça, et il faut entrer dans ce labyrinthe absolument spatio-temporel. On y croise une jambe humaine retrouvée dans un requin, des flics corrompus, un carnaval, des militants qui se terrent, mais qui font aussi la fête dans ce pays parano. Bref, il faut se laisser absolument emporter dans ce flot d'émotions et d'images, avec effectivement comme propos central une confiance inébranlable, incroyable et bénéfique dans le cinéma.
Benjamin, vous adorez ce film.
Ah oui, immense film, ouais. Pour moi, c'est vraiment le film de l'année. Hein. C'est-à-dire que Enfin, on a peur, on s'amuse, c'est à la fois un carnaval, c'est un angoisse. En effet, Wagner Moura est, je pense, beau à tomber. Ouais. Et puis, c'est aussi un film, alors sans trop en dire, mais c'est aussi un très bel hommage aux chercheurs et aux chercheuses.
Oui,
c'est vrai. Et à tous ces gens qui se battent ou qui sont battus en ce moment par l'extrême droite, par les totalitarismes.
Ouais.
Et là-dessus, le film est quand même oui, assez
somptueux. Oui, parce qu'il y a impunité pour les anciens bourreaux, en plus, là-bas.
Oui, il y a impunité. Et puis, il y a cette idée que... peut-être tout le monde ne veut pas forcément faire ressurgir la mémoire.
Ouais.
En l'occurrence, on parlait de fantômes.
Ouais.
Et là, c'est quand même le fantôme du totalitarisme qui revient parmi nous.
Ouais. L'amour qu'il nous reste du cinéaste islandais Ilnur Palmason. La trajectoire intime d'une famille dont les parents se séparent. Une séparation apaisée, Laurent, c'est si rare au cinéma, même dans la vie. Dans cette nature sublime, au fil des saisons, autour de cette femme artiste plasticienne. D'ailleurs, ce sont les œuvres du cinéaste qu'on voit à l'écran. C'est drôle, mais ça m'a fait penser à Björk, unique. Il faut vraiment y croire pour se faire connaître comme elle l'a fait dans cette contrée si lointaine. C'est ce que ce film raconte aussi, cette vie de femme, d'artiste et de mère de famille.
Ouais, c'est le quatrième long métrage d'un cinéaste dont on avait beaucoup aimé le film précédent qui s'appelait Godland,
oui.
Sur la fracture entre le Danemark et l'Islande. Ici, là, l'image est carrée et un peu issu presque effectivement d'un film de famille, avec une scène initiale qui pose clairement les choses, un plan absolument saisissant de l'enlèvement d'un toit, du toit d'une maison, et vu de l'intérieur.
Oui.
Et ça, c'est absolument sublime, parce que ça montre bien le propos du film, une maison sans protection, comme l'est la famille au centre de ce film. Donc c'est la peinture progressive d'un délitement, avec en contrepoint un humour décalé, et surtout, une nature sublime, qui, comme le disait un peu un jour Werner Herzog, bah, décidément, la nature, elle s'en fout.
Le Chant des forêts de Vincent Munier, sans Sylvain Tesson, après La Panthère des neiges. Il nous invite au cœur des forêts des Vosges. C'est là qu'il a tout appris avec son père naturaliste et qui va passer le flambeau à son fils. Trois regards, trois générations sur les cierres, les oiseaux rares, renards et lynx. Humilité et patience, aussi un peu pour nous spectateurs quand même. Et malgré de bien belles images, trop peut-être pour nous sensibiliser vraiment à la cause.
Bon, moi j'avais été un petit peu en retrait par rapport à La Panthère des neiges, je trouvais que la Panthère était pas assez là et Sylvain Tesson trop. Finalement, l'absence de Tesson me ravit plutôt qu'autre chose. C'est un film ici aux allures beaucoup plus modestes, moins bavard et littéraire, suivez mon regard, mais plus près de son sujet, c'est-à-dire la nature en action avec les animaux et les végétaux qui se répondent, qui sont dans une sorte d'interaction. Et puis ces trois générations, le petit-fils, le grand-père, le père, qui tous converge vers ce point, vers cette nature. J'ai trouvé que c'était touchant, mais pas niaiseux, ce qui est déjà un beau pari.
Où sont les femmes ? La nature, près de la ville, hommage au dernier espace écologique qui reste dans la ville de Barcelone. C'est Histoire de la Bonne Vallée. C'est un doc signé José Luis Guerin.
Oui, c'est très très passionnant ce documentaire, parce qu'il se situe à 19 km de Barcelone, cette Éden préservée, mais absolument menacée par le tourisme ambiant et l'urbanisation croissante. C'est une perle ou un oasis humain et humaniste perdu au cœur d'un environnement. Et Guérin filme cet endroit avec beaucoup de délicatesse, comme s'il avait peur d'ailleurs de l'abîmer et presque de nous le faire connaître. Donc ça, c'est très beau. Et bien le résultat, c'est là, c'est des moments joyeux de fêtes, de baignades, de repas. Filmé avec beaucoup de grâce, et des habitants qui sont d'ailleurs en majorité des immigrés âgés et dont on a l'impression presque de déranger parfois, mais c'est un très beau film, c'est en forme de poème.
Rebuilding de Max Walker Silverman avec Josh O'Connor. Dans l'Ouest américain, dévasté par les incendies, Dusty voit son ranch anéanti par les flammes. Il trouve refuge dans un camp de fortune et commence lentement à redonner du sens à sa vie, entouré de personnes qui, comme lui, ont tout perdu. Des liens se tissent, et notamment l'espoir de renouer avec sa fille. Ça, c'est typique du film indé américain qu'on ne voit plus. Sobre, bien raconté, bien filmé, bien joué, mais sans supplément. Le film ressemble à son anti-héros, discret, et qui ne veut pas déranger.
C'est vrai, ouais, mais voilà, bon, avec la question qu'est-ce qu'on peut faire après ça, hein, après l'incendie de sa maison et la perte de tout. C'est vrai que c'est à bas bruit, c'est vrai que Josh O'Connor est très bien dans le rôle principal. Et
la
voilà.
Petite fille aussi.
Oui, absolument, ouais. Tout est là, tout est bien posé. On peut pas être enthousiasmé, mais on peut se dire quand même que finalement, ça fait aussi du bien de voir ce genre de film.
Une reprise Quai des Brumes, Marcel Carné, Prévert.
Oui, une citation, Robert Le Vigan qui dit dans le film « Je peins malgré moi les choses cachées caché derrière les choses. Un nageur, pour moi, c'est déjà un noyé. Je crois peindre la joie, la musique, un bal, une noce en plein air. Et sur ma toile, c'est la jalousie, la haine, le meurtre, le cimetière, des natures mortes, quoi.
C'est drôle.
Je suis Prévert.
Et les cadeaux, maintenant, pour nos invités.
Alors, les cadeaux, pour vous, Jonathan... On a pensé qu'un peu de Claude Chabrol ne pouvait pas faire du
on
mal.
On a le temps, Laurent.
On a le temps. Alors, les biches, la femme infidèle, que la bête meure, le boucher juste avant la nuit, la rupture, les noces rouges. Il n'y a pas un film en trop. Oh. C'est la première vague d'une intégrale, on espère, de Chabrol. C'est chez Tamaza. Les bonus sont absolument à la hauteur. Et vraiment, il faut
cadeau,
voir
merci
et revoir Claude Chabrol parce qu'on ne s'en lasse évidemment
Qu'est-ce
pas.
Qu'est-ce que vous avez dû être assidu de ces films ou pas? Jonathan.
Oui, du Chabrol et puis du personnage aussi. Moi, il fait vraiment un personnage de mon enfance. Et on l'oubliera jamais.
Oui, c'est
il
vrai.
Là, avec sa pipe, avec ses lunettes et
on rire.
Et ses sorties et son rire et son esprit. Et en fait, c'est des films Chabrol, mais c'est un tout.
Oui.
Il fait partie de ces réalisateurs un peu personnages comme ça, qui sont inscrits et dans le cinéma et dans nos vies intimement, de par ce qu'ils sont et de par ce qu'ils ont produit. Donc moi, Chabrol, j'ai un amour profond.
Il y a une merveilleuse citation sur le coffret où il dit que l'intelligence c'est intéressant, mais c'est un peu limité. La bêtise c'est illimité.
Oui,
et c'est beaucoup plus intéressant.
Bien, je partage son avis.
Et pour Benjamin,
pour vous, Benjamin, Zatoichi, ça vous dit quelque chose? Évidemment, le cinéphile que vous êtes ne peut pas passer à côté de ça. C'est merveilleux. C'est un premier volume de cette saga qui a à la fois tant inspiré des cinéastes et puis qui est au cœur d'une vraie cinéphilie et d'un vrai genre.
Benjamin, vous êtes aussi monteur, notamment de ce film « Je suis déjà mort trois fois » où l'acteur et réalisateur Jacques Nolo, le temps d'une journée, se raconte. Très beau film qui est disponible sur Arte.
Oui, qui est disponible et qui est même visible en fait, qui fait partie du festival Arte où on peut voir les films et voter pour les films qu'on a préférés.
On va voter pour « Je suis déjà mort trois fois ».
Votez, faites voter.
Merci à notre équipe Valérie Aestareille à la réalisation, Benjamin Dussier à la préparation, Olivier Rioux à la programmation musicale et aux manettes ce matin, Corentin Rouchy.
Merci.
Au revoir.
Salut.
Au revoir. C'était On aura tout vu sur France Inter.